Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et si ce bon vieux Montaigne nous aidait à prendre soin de notre santé psychologique? L'auteur des essais meurt dans son manoir à 59 ans le 13 septembre 1592. Et comme le rappelle l'écrivain Frédéric Schifter dans Le plafond de Montaigne, il était temps. Depuis des années, la santé désertait ses reins et la joie son cœur. Il souffrait de crises de goutte et de poussées de mélancolie qui, jour après jour, le rendaient inapte au bref plaisir de l'existence. Et c'est peut-être pour cette raison que nous pouvons encore tirer de sa vie et de ses pensées ondoyantes des enseignements pour mener notre barque dans l'océan instable et incertain qu'est la vie. Et si l'œuvre de Montaigne était également une médecine, une thérapeutique pour prendre soin de sa santé, c'est en tout cas la thèse audacieuse du psychiatre Michel Lejoyeux que nous allons explorer ce matin. Au fil de notre conversation, je vous invite à nous appeler pour poser vos questions, que vous soyez lecteur ou non de Montaigne, 01 45 24 7000 ou en utilisant l'appli France Inter. Et en l'absence momentanée de notre camarade Marie-Laure Sunshein, c'est Christilla Pelédouel qui s'y colle, co-autrice de la revue Grand Bien vous fasse qui sort demain et qui est venue ce matin avec son panier de questions pertinentes.
Et très très pertinentes, je vous remercie.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Grand lecteur de Montaigne, quelle sera la tonalité de vos choses vues?
Eh bien, je parlerai bien sûr de Montaigne, mais aussi des rois mages. Et puis, je passerai aux choses sérieuses et je parlerai d'estime de soi et d'histoire de fesses.
A tout à l'heure, ça promet. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
J'ai été assez souvent malade. J'ai trouvé, sans leur secours, mes maladies aussi douces à supporter, et on est essayé quasi de toutes les sortes, et aussi courtes qu'à nul autre. Et si n'y est point mêlée l'amertume de leurs ordonnances. La santé, je l'ai libre et entière, sans règles et sans autre discipline que de ma coutume et de mon plaisir.
Un extrait d'Un été avec Montaigne d'Antoine Compagnon à podcaster sur l'appli Radio France. Bonjour Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Professeur de psychiatrie à l'Université Paris Cité, chef de service à l'hôpital Bichat. Vous publiez chez Robert Laffont En bonne santé avec Montaigne. Alors c'est étonnant de publier un gros essai avec ce titre alors que Montaigne a souffert d'une très mauvaise santé et qu'il n'aimait pas beaucoup les médecins.
Non, il n'aimait pas beaucoup les médecins, mais en le lisant, je me suis dit on fait à peu près le même métier. Il l'a fait évidemment avant moi, mais c'est quoi aujourd'hui la médecine et la santé? C'est essayer de trouver des bons comportements. Comportement à table, comportement dans la vie, comportement avec des amis. On donne des avis sur les comportements. C'est aussi trouver des bonnes croyances. Hein, Montaigne dit « se croire brave, c'est être brave ». La seule façon qu'on a d'être courageux, c'est de se croire courageux. Quand on se bagarre contre quelqu'un qui se croit invincible, il est à peu près impossible à battre. Par contre, se croire fragile, c'est être fragile. Donc ce travail, et je vois Christophe en face de moi, sur les croyances et les cognitions, il l'initie et il donne des manières de le faire. Et puis dernière chose que je trouve quand même très utile, dans une époque où il y a eu beaucoup de médecins prescripteurs, un peu autoritaires à cause de la crise de la pandémie, où on vous imposait des choses, c'est que Montaigne, il vous dit, vous savez, un peu comme cette publicité, venez comme vous êtes, venez avec vos défauts, venez avec vos faiblesses, vous aimez pas vos enfants, bah écoutez, c'est pas naturel le fait d'aimer vos enfants, vous êtes en colère, moi aussi je suis en colère, vous avez, et au fond cette acceptation de ces faiblesses, ce changement de croyance et ce changement de comportement, c'est vraiment la base de ce qu'on essaie de faire au quotidien. D'ailleurs, le livre, c'est pas un livre de grande philosophie, c'est un livre d'une histoire avec une dame qui s'appelle Marie, à qui je propose quelque chose, une patiente, à qui je propose une montaigno-thérapie, évidemment, un tout petit peu imaginaire.
Alors Montaigne souffrait de coliques néphrétiques, accompagnées de douleurs atroces et d'actes de chirurgie horribles pour extraire ses calculs rénaux. Et on ne peut pas comprendre Montaigne si on ne garde pas à l'esprit cette vie de souffrance.
Bien sûr. Et puis on voit, alors Montaigne dit des choses sur cette vie de souffrance. Il dit, moi, entre l'opération, qui était des opérations d'une violence considérable, hein, qu'on appelait la taille, où on ouvrait le corps de manière très violente, il dit, moi, je préfère aller prendre des bains en Italie et me confronter à une autre culture, me nourrir de cette civilisation italienne, de musique, de... Au fond, on est dans cette idée d'une médecine véritablement douce au sens de Montaigne.
Bonjour Frédéric Schifter.
Bonjour Ali.
En ligne depuis Biarritz, ancien professeur de philosophie, autoproclamé je m'en foutiste, je vous cite. Vous écrivez beaucoup, vous êtes l'auteur du plafond de Montaigne chez Milan, et récemment je me suis régalé de votre court recueil d'aphorismes, Lassitude, publié chez Louise Bottu, éditrice dans les Landes, et elle fait un beau travail d'édition. Frédéric Schifter, l'état de santé a bien évidemment influencé les essais de Montaigne. Hein.
Oh, bien évidemment, vous savez, les essais ou tout livre de philosophie est d'abord une pathographie, hein, c'est-à-dire la consignation de ses souffrances, de ses symptômes, qu'on déguise sous des concepts, hein, souvent, mais là, je crois que Montaigne, le grand intérêt de lire les essais, c'est qu'il ne déguise rien, il ne masque rien, il se livre tel qu'en lui-même, hein, il le dit, je suis la matière de mon livre, je me raconte, et dans ce récit de lui-même, il raconte ses symptômes, il les livre au lecteur, mais il le fait avec une certaine distance, souvent amusé, c'est un spécialiste de l'autodérision, ce qui fait qu'on ne s'apitoie pas sur sa maladie ou ses maladies, mais on les prend en considération. Et au fond, elles sont moins graves, finalement.
Et quel regard Montaigne portait sur la médecine? Il la tenait pour une foutaise, hein, je vous cite.
Ah, oui, 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 il tenait les médecins de son temps pour des charlatans. Et d'ailleurs, Molière considérera les médecins exactement de la même façon, parce que les remèdes qu'ils apportent sont souvent pires que les mots.
Michel Le Joyeux, Montaigne n'est pas très élogieux ni sympathique sur votre corporation.
Alors Montaigne est plus précis que ça. Il n'aime pas beaucoup la médecine. Il n'aime pas la médecine au sens violent de son époque. Il aime bien les médecins. Il dit quand j'en convoque un, je lui demande quel vin il me conseille et je le rémunère pour ça. Mais d'emblée, il comprend que nous sommes uniques et ça c'est très en avance sur son temps. Que le corps et l'esprit ne font qu'un. D'ailleurs, il dit quelque chose qui aujourd'hui choquerait un peu, mais qui est validé par la neurobiologie. Si vous avez le choix entre faire uniquement un exercice spirituel ou uniquement un exercice corporel, faites plutôt un exercice corporel. Ça fera du bien à l'esprit, l'inverse n'est pas sûr.
Alors Michel Le Joyeux, votre livre débute donc avec une patiente fictive, Marie, qui cherche un sens à sa vie. Elle ne souhaite pas de psychothérapie classique ni de traitement médicamenteux. Alors vous lui proposez de partager votre récente découverte des essais de Montaigne. C'est assez étonnant pour un adepte de la médecine basée sur les preuves.
Oui, bien sûr, mais alors, on va... D'abord, on a le droit de temps en temps, c'est ce que je dis au début, d'avoir des petits coups de folie, puis on a le droit aussi d'être inspiré véritablement par ça. Et à chaque fois qu'on voit un conseil de Montaigne et qu'on met en parallèle des recherches neurobiologiques récentes, parce que dans mon livre, j'en cite aussi beaucoup, on voit à quel point il a raison. Un petit truc, par exemple... Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Cette phrase tellement célèbre sur l'amitié avec la Boétie. Il faut avoir un vrai ami. Il faut que le cœur soit tellement cousu qu'on ne voit plus la couture. Et que dit une étude qui vient de sortir? C'est que plus on a des relations en ligne, des relations superficielles, qui peuvent se fâcher du jour au lendemain, plus on est exposé à la maladie. Plus on a un vrai ami, un labo SI, plus finalement on est protégé. Donc vous voyez ce lien entre recherche récente et Montaigne.
Christine Appelé-Doyle.
Oui, c'est étonnant, cette étude que vous venez de citer. Comment se fait-il, comment vous, le psychiatre, pouvez-vous expliquer, le médecin, je m'adresse aussi à Christophe, qu'il y ait un lien aussi direct, selon ce que vous dites, entre le nombre d'amis démultipliés par les réseaux sociaux et la maladie elle-même? Moi, j'aurais plutôt parlé d'une perte de sens, d'une angoisse existentielle, de choses comme ça, mais un lien direct avec des pathologies et le nombre d'amis sur Facebook ou je ne sais quel réseau social.
Parce que Montaigne pose une question un peu iconoclaste, un peu scandaleuse, qui est de dire, est-ce que vous avez un meilleur ami? Vous voyez, est-ce que vous avez quelqu'un dont vous pouvez dire, c'est pas simplement une relation, mais il dit, faut même pas en avoir deux. Parce que si vous demandez des choses contradictoires, les deux, vous ne sauriez lequel servir. Et au fond, ce qu'on voit aujourd'hui en termes de liens et d'étayage, c'est que ce qui nous étaye, c'est pas les personnes qu'on croise et avec lesquelles on est sympathique, c'est ces quelques meilleurs amis, ces quelques relations, c'est quelques tueurs. tuteur de résilience, et c'est ça qui nous fait du bien. Les autres étant susceptibles, vous voyez bien, de s'éloigner, de se rapprocher, et créant un sentiment d'instabilité. Il y a aussi l'autre chose, c'est que plus on est triste, moins on a confiance en soi, plus on va avoir besoin de multiplier des signes extérieurs de narcissisme, alors qu'au fond, il y a un critère aussi pour ce bon ami. Il doit être capable d'avoir une conversation avec nous, conversation, un grand antidépresseur naturel, et il doit être capable de nous contredire. Vous voyez, on cherche un ami unique, le meilleur, avec lequel on passe du temps et qui n'a pas forcément la même idée que nous sur son émission de radio préférée, la politique, tout ce que vous voulez. Je vous laisse imaginer.
Vous êtes de bons amis, Christina et Christophe, je le confirme. Frédéric Schifter.
On essaye.
Frédéric Schifter, pouvez-vous nous rappeler la modernité des essais pour ceux qui ne l'auraient jamais lu, ceux qui n'osent pas s'y plonger? Pourquoi les essais sont une loupe, un microscope pour mieux se connaître?
Eh bien, d'abord, c'est un ouvrage qui est moderne déjà à l'époque de Montaigne, parce que d'abord il intitule ses traités de philosophie, non pas traités de philosophie, mais ce sont des essais. C'est-à-dire qu'il s'exerce à un type d'écriture où il ne se fixe pas de traiter à fond le sujet qu'il se propose de traiter. Comme il dit, j'écris à saut et à gambade. Donc il digresse, il flâne, il se promène dans le thème qu'il se propose donc de traiter, mais il y revient souvent, il se détourne de son chemin, mais pour y revenir. Mais c'est dans la digression, à mon sens, qu'il va à l'essentiel. Et puis, je crois que l'essai pourrait s'apparenter à ce que j'ai appelé une égographie. C'est-à-dire qu'il ne se perd jamais de vue quand il écrit, il parle toujours d'un point de vue subjectif, et c'est ainsi que... D'ailleurs, il influencera comme ça Pascal et Descartes, évidemment, même si Pascal le critique vertement, mais Descartes, quand il écrira son discours de la méthode, il s'inspirera directement des essais de Montaigne. Donc il écrit à la première personne pour traiter de sujets vastes et universels. Et c'est en cela qu'il est moderne et qu'il l'est toujours aujourd'hui.
Alors, Michel Lejoyeux, comment vous est venue cette idée apparemment saugrenue que Montaigne pouvait améliorer notre santé? Vous écrivez qu'il est le vaccin idéal contre nos angoisses et certaines de nos maladies modernes.
Oui, si on reprend par exemple la question qui est vraiment une question de la maladie mentale, de la tristesse. Montaigne nous dit des choses essentielles. Un, on fait la différence entre un grand chagrin, ce qu'on appellerait nous en médecine une dépression majeure. Quelqu'un qui a une dépression maladie... complètement mélancolique, vous pouvez lui apporter les meilleures paroles que vous voulez, vous ne le sortirez pas. Le chagrin pétrifie l'esprit, pétrifie le corps. Il le dit comme ça. Quand on est dans un tel chagrin, on est même au-delà de la possibilité d'exprimer son chagrin. Et l'autre chose, et ça c'est complètement dans la médecine moderne, c'est la tristesse. La tristesse est une émotion. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit la tristesse, il faut pas l'aimer. Il faut pas l'affronter. Il faut pas se constituer son musée de tristesse. Et au fond, il faut, et là encore, on est dans une logique qui est complètement celle des thérapies comportementales. Il nous explique comment le faire, et j'essaie dans le livre d'expliquer comment le faire. Il faut la considérer comme une voix étrangère qui se trompe. Tu n'as pas raison. Donc, vous voyez, c'est un truc que j'ai tout le temps eu envie de dire en consultation, ça, à quelqu'un qui traîne une sorte de désespoir existentiel. Et si vous arrêtiez d'aimer votre tristesse? Et lui, sans aucun état d'âme, le dit.
Votre regard, Frédéric Schifter, vous qui affectionnez les penseurs tristes.
C'est-à-dire que tous les essais de Montaigne sont imprégnés de sa mélancolie, de sa tristesse. Il y a la perte d'Étienne de la Boétie qui le plonge dans un chagrin terrible. Il est amputé, dit-il, je suis amputé d'une partie de mon être. Le mot est fort. Il y a la mort de son propre père pour qui il avait une admiration sans borne. Donc la tristesse est une sorte de muse pour lui, et d'ailleurs, plus le temps passe, moins il arrive à en guérir, et à mon sens, l'écriture des essais est une sorte d'exorcisme peut-être de sa tristesse, mais au fond, il n'en guérit absolument jamais. Et c'est ainsi qu'il parle d'ailleurs, il est le premier à utiliser la notion de mal-être. Et souvent, dans ses essais, il attend la mort comme le passage du du mal-être au non-être. Voilà, c'est la seule façon d'en guérir. Alors, ce n'est pas un suicidaire, hein, c'est pas du tout ça, Montaigne, hein, mais en tout cas, c'est un profond mélancolique. Hein, et dans des essais, il brocarde aussi les joyeux drilles, les guélurons qui lui tapent sur les nerfs, hein, et notamment dans son entourage familial, etc., autant que les tristes cires, si vous voulez. Donc, et c'est pour ça qu'il aime la solitude, sa librairie, ses livres. Il n'y a que là où il se sent véritablement exempt de cette profonde tristesse. Il converse avec les seuls amis qui lui restent, c'est-à-dire les anciens.
Michel Lejoyeux.
Oui, mais il est certes, il porte cette tristesse, mais il s'autorise quelque chose qui marche très bien et qu'on peut faire au quotidien, qui est la distraction. Il dit, si vous avez à traverser un pont et que vous avez le vertige, soit vous regardez de manière intense ce qui vous fait peur, soit vous vous distrayez. C'est très hérétique aujourd'hui en psychologie de dire qu'on a le droit de se distraire plus que d'essayer de comprendre ce qui nous rend triste. Donc certes, il porte avec lui ce mal-être, mais il nous donne des leçons pour comment nous distraire. Cette autorisation de distraction, c'est ce qu'on fait au quotidien.
Christophe André.
Oui, c'est en ce sens que Montaigne est réconfortant à lire. Il est pédagogique et peut-être même thérapeutique dans certains cas parce que il ne cache pas ses difficultés personnelles, mais il montre que son objectif, c'est un bonheur intelligent, un bonheur tranquille. Il accorde beaucoup d'importance au bonheur, au bien-être, à la paix de l'esprit, tout en montrant à quel point, mais c'est pas si simple que ça de l'atteindre.
Christina.
Oui, vous parlez aussi de l'hypersensibilité, de la manière dont Montaigne aborde cette question. C'est une question extrêmement actuelle. On parlait de l'actualité de Montaigne, de son côté extrêmement moderne. Ce qu'il dit à propos de l'hypersensibilité est extrêmement intéressant. Il ne va pas dans ce sens-là. Il ne caresse pas l'hypersensibilité dans le sens du poil. Il va au contraire, essayer de contrer, de retrouver de la force. Alors, vous parliez aussi du courage. Est-ce que c'est lié? Que dit-il à ce sujet? Parce que c'est très à la mode, l'hypersensibilité.
Il a un mot absolument magique, parce que les images, et c'est ce qu'on fait en consultation, les images portent les concepts. Il parle d'encrouter l'esprit. Vous voyez, on voit bien ce que c'est qu'un esprit encrouté, hein, comme une miche de pain avec de la croûte. Et au fond, il dit, mon esprit est certes sensible, mais je ne vais pas cultiver cette hypersensibilité. Je vais l'encrouter. C'est sa protection. Je vais m'apprendre à désirer, mais avec peut-être un tout petit peu moins d'intensité et de souffrance, et à regretter aussi avec un petit peu moins d'intensité et de souffrance. Vous voyez, c'est très anti, j'allais dire, empathie absolue, émotion qui vous traverse de plus en plus. Il repère à quel point on a aussi besoin de cette défense, ce qui là aussi est très original.
Michel Lejoyeux, vous rappelez dans votre livre que Montaigne a peut-être anticipé certaines thérapies, et pourtant il n'est ni un expert, ni un spécialiste, et c'est peut-être là sa force. Vous écrivez que ces expériences de santé sont un traitement professionnel conçu par un amateur génial.
Oui. Et essayer sur lui-même, hein, on voit bien cette idée du mal-être, c'est une espèce de savant qui s'auto-traite avec des bonnes croyances, des bons comportements. Ce côté, ne m'embêtez pas, je suis comme je suis, et au fond, laissez-moi dans ma bibliothèque des livres, des amis. Donc, il construit cette trousse et j'allais dire beaucoup plus de santé que de bonheur. Je crois qu'il est, il est loin d'imaginer que le bonheur est accessible, mais par contre, un peu de santé, un peu de sérénité, oui.
Et une professeure de l'université de Floride, hein, dénommée Kelly Island, s'inspire chaque jour de Montaigne pour délivrer ses conseils de santé psychique. Son programme thérapeutique se donne pour mission de développer chez ses patients quatre qualités: le plaisir de l'instant présent, l'acceptation des désagréments mineurs, la régulation des émotions et la souplesse de l'esprit.
Oui, c'est un peu aussi, c'est un genre de thérapie très moderne qu'on appelle aujourd'hui les thérapies dialectiques.
Ça veut dire quoi?
Les thérapies dialectiques, c'est au fond, on acquiert une connaissance de soi, une connaissance de la manière dont son esprit fonctionne, on intègre certains raisonnements qui sont des raisonnements protecteurs. Vous savez, là-bas, je parle devant le pape des thérapies cognitives qui est de l'autre côté de la table, mais il m'interrompra si besoin. L'idée de base de tout ça, c'est qu'on a des pensées automatique. Que ces pensées automatiques, elles consistent à nous trouver tristes, à se dire, ben, quand je parle, j'ai l'air idiot. Vous voyez, si vous aviez ça, vous imaginez, vous auriez ça tous les matins.
Je ferais pas de radio, là.
Ouais, vous feriez pas de radio. Et on peut, petit à petit, remplacer ces pensées automatiques toxiques par des croyances qui, elles, sont possibles. C'est exactement ça, le travail qu'on fait, nous, au quotidien, et le travail que fait Montaigne.
Alors, pour Montaigne, l'une des conditions de la santé, eh bien, c'était d'accepter l'idée de la mort. Frédéric Schifter, pas un jour sans que Montaigne ne pense au dernier jour, hein, cette mort dont il disait que c'est l'acte d'un seul personnage.
C'est l'acte d'un seul personnage, c'est le maître jour. Et... Mais enfin, ce n'est pas tellement la question de la mort qui le préoccupe en tant que tel.
C'est le mourir.
Ah, c'est le mourir. Mmh. C'est le mourir, c'est-à-dire ce processus par lequel la vie devient de plus en plus invivable et arrive un moment où c'est là, on sent que quelque chose va se produire et on va basculer dans le non-être. Et c'est ça qu'il craint. Et d'ailleurs, il, en ce qui le concerne, il a pu le craindre à juste titre, puisque son agonie a été absolument terrible. Oui, c'est le mourir. Mais enfin, je voudrais revenir quand même sur une chose qui a été, les choses qui ont été dites jusqu'à maintenant. Moi, je suis assez étonné que l'on puisse, comme ça, présenter Montaigne comme une sorte de coach de bien-être, de joie de vivre, etc. C'est d'ailleurs, en plus, ce n'est pas du tout son dessein, hein, quand il écrit les essais, puisque il le dit dans son avertissement, hein, au lecteur, hein, il dit à son lecteur, je n'y ai nulle considération de ton service. C'est un livre qui a uniquement une fin privée, domestique. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse qu'à lui, c'est un égotiste, c'est quelqu'un qui n'a d'autre ambition que de se raconter, que de se dépeindre. Il y a quelque chose, moi je dirais pas de narcissique, mais enfin, il y a quelque chose dans ses essais qui relève véritablement du parti pris de l'affirmation de son individualité. Et à mon avis, c'est là où il est très moderne, et je pense que c'est pour ça que Nietzsche l'aimait aussi, c'est parce qu'il y a l'affirmation de l'individu dans son entièreté, si j'ose dire, dans son unicité. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est son unicité, même si il peint, comme il dit, la forme de l'humaine condition à travers lui, parce que c'est aussi son ambition. Mais il ne peut faire cette peinture de l'humaine condition qu'en partant de lui-même, et uniquement de lui-même, et son lecteur, il n'en a que faire, il le dit de manière très claire et très insolente au début de ses essais.
La parole à la défense, Michel Le Joyeux, juste après le disque, juste après avoir écouté les Cardigans qui interprètent Loveful. Cardigans interpréter Loveful.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et ce matin, comment la lecture des essais de Montaigne peut nous aider à cultiver notre bonne santé en compagnie du professeur de psychiatrie Michel Lejoyeux et de l'écrivain Frédéric Schifter. Question témoignage au 01 45 24 7000. Alors juste avant le disque, notre ami Frédéric Schifter critiquait que l'on fasse de Montaigne une sorte de coach en développement personnel. Réponse de Michel Lejoyeux, je rappelle que vous êtes l'auteur d'En bonne santé avec Montaigne.
Deux mots, évidemment, ce n'est pas du tout du développement personnel. Moi, j'écris dans le livre que c'est plus du développement de la personne et du développement de notre complexité. C'est certainement pas une simplification du développement personnel. L'autre chose, c'est qu'on peut aider malgré soi. Et je crois que Montaigne est une sorte d'aide ou de guide un peu à son insu. Vous savez, je le vois comme un personnage assez râleur, assez aigre, assez dépressif, mais qui nous raconte des histoires qui font tellement du bien et qui donnent des expériences de vie qui font tellement du bien que même s'il ne les présente pas comme telles, elles font du bien. Vous savez, souvent c'est l'inverse. Il y a des gens qui font l'inverse, qui veulent vous raconter des choses qui font du bien et en fait c'est profondément déprimant. Là, on est dans les faits complètement inverses.
Christine Appelé-Duel de la revue Grand Bien Vous Fasse.
Oui, en fait, ce que disait Frédéric Schifter à l'instant, que Montaigne n'a pas d'intention et qu'il n'écrit que pour lui-même et peu importe les lecteurs, dans le fond, on pourrait retourner la proposition et dire pour les lecteurs, peu importe l'auteur ou ce qu'il a voulu dire, dès l'instant où le lecteur, lui, peut en faire son miel, voilà. Et on s'en fiche, ce qui compte, c'est l'écrit, c'est ce qui est dit, c'est pas l'intention.
Christophe André.
Oui, puis c'est une lecture au fond. Je pense que Frédéric Schifter fait, bien sûr, et c'est normal, une lecture de philosophe lorsqu'il lit Montaigne. Et Michel Lejoyeux, moi-même, faisant une lecture de soignant, de médecin. C'est-à-dire, bien sûr que Montaigne n'a pas l'intention que de rendre ses lectrices et lecteurs en bonne santé, mais en fait, c'est l'inspiration qu'il suscite en nous à sa lecture, où on se dit, mais finalement, il a une manière de conduire sa vie qui est inspirante pour notre manière à nous de conduire nos soins. Voilà, c'est ça. Et au fond, c'est la grande liberté des lecteurs de choisir un petit peu ce qu'ils vont retirer du livre qu'ils ont entre les mains.
Alors Michel Lejoyeux, vous montrez dans votre livre qu'il est essentiel d'accepter et de reconnaître ses émotions. Et tout au long de ses essais, Montaigne ressent, reconnaît et raconte ses émotions. Pourquoi est-ce bénéfique à notre santé et qu'est-ce que Montaigne nous apporte en la matière ?
Alors sur les émotions, par exemple, il fait la différence entre les émotions toxiques, les émotions maladies et les émotions protectrices. Par exemple, sur la peur, il dit des choses très très intéressantes. Il dit, si on n'a pas un tout petit peu de stress, vous voyez, on en a eu un tout petit peu, là on est en direct, on mobilise un peu, on a augmenté mais un tout petit peu notre adrénaline, on n'est pas effondré, mais cette peur, cette petite tension met, et il le dit très joliment, des ailes au talon. Hein, si on n'a pas un tout petit peu de challenge, on n'a pas ces ailes au talon. Et à l'extrême, et c'est tout le travail de la médecine, il y a la panique qui fait qu'on fait n'importe quoi. Il raconte comment des soldats paniqués se mettent à tuer les soldats de la même armée, comment on perd la réalité. Et tout le travail de la médecine, c'est de faire la différence entre une peur qui mobilise, qu'il faut surtout garder, et une peur qui, elle, pour le coup, peut être corrigée. Donc, là encore, pas du tout émotionnel, mais faisons une sorte de diagnostic de l'émotion.
Et quels sont les bienfaits de la reconnaissance et du récit de ces émotions ?
En tout cas, de les dédramatiser. Et puis, là où Montaigne est formidable, c'est qu'il nous apprend qu'on n'est pas tout seul. Quand lui a justement ces moments de découragement, ces moments de deuil, la peur de la mort, la peur de la maladie, elle nous traverse tous. Le fait d'avoir quelqu'un qui accepte de la dire à ce point-là, c'est aussi extrêmement rassurant.
Et vous citez dans votre livre une équipe de psychologues allemands qui a publié en 2021 une étude sur ce sujet. Cette équipe a suivi 4000 volontaires pendant 10 ans. Et cette équipe a montré que celles et ceux qui acceptaient de reconnaître leurs émotions vivaient plus longtemps en meilleure santé.
Bien sûr, avec notamment des effets aussi sur l'adrénaline, sur les vaisseaux. La grande maladie du siècle, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie, l'incapacité à lire et lexilire, timie ses émotions. Quand on a fini, ou Montaigne, ou en toute immodestie mon bouquin, on accepte l'idée qu'on est traversé par des émotions, et au moins elles sont là. Cette reconnaissance de base, c'est fait la différence entre deux types de personnes. Ceux qui croient qu'ils n'ont pas d'émotions m'inquiètent beaucoup. Et ceux qui n'en ressentent pas m'inquiètent encore plus.
Alors, pour augmenter notre capacité à ressentir les émotions d'autrui, Montaigne propose un petit jeu. Et si c'était moi ?
Oui, c'est un jeu.
Racontez-nous ce jeu.
Qu'on fait en permanence en consultation, ça s'appelle la mise en situation. Alors lui, il prend un exemple précis. Vous êtes un soldat qui a été détruit par votre adversaire. Vous êtes dans une situation, on a tous des moments comme ça dans la vie où vraiment on n'est pas en bonne posture. Est-ce que vous tentez, en face de celui qui vous maîtrise, l'apitoiement ? Vous essayez de lui faire transmettre ça ? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes fier et vous allez utiliser le défi ? Autre mise en situation, face à quelqu'un qui est en face de vous, est-ce que vous êtes plus impressionné par quelqu'un qui vous apitoie ou par quelqu'un qui vous regarde dans les yeux en vous défiant ? Et ça, vous voyez, quand on commence à jouer à ça, on se décentre, on change de point de vue. C'est ce que je fais, moi, toute la journée, quand je vois quelqu'un qui boit trop, je dis, regardez, ce serait votre copain que vous verriez dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Donc, cette technique du changement de point de vue, de la mise en situation, avec plein d'autres exemples, c'est une manière de trouver une solution à une situation qui nous paraissait insoluble.
Christelle Apelle-Edouelle, mettez-vous dans la peau de Frédéric Schiff, qui serait peut-être pas d'accord avec Michel Montaigne.
Avec Michel Le Joyeux. Que je me mette dans sa peau, Frédéric Schiff. Mais ce serait avec plaisir, parce que j'aime beaucoup Frédéric Schiff. Mais oui, la question de se décentrer, en fait, c'est la question aussi de simplement de l'humanité, hein, de l'empathie, tout bêtement. Voilà, alors c'est vrai que Montaigne en parle, mais c'est pas mal en ce moment de rappeler ce genre de choses. Mais oui, c'est un comportement, une manière d'envisager la relation qui me semble être indispensable. Enfin, ça me semble même presque être le béaba de la relation.
Si on veut faire un tout petit peu de politique, se mettre à la place de l'autre, être capable de temps en temps de se mettre à la place de l'autre, de se dire « et si c'était moi ?» c'est pas inutile dans certains cas, je vous laisse trouver quand.
Christophe André.
Oui, on peut rappeler aussi que Montaigne a fait beaucoup de politique. Il a été maire de Bordeaux à deux reprises, il a été impliqué dans de nombreuses négociations lors des guerres de religion entre catholiques et protestants. Donc il savait ce que c'était, il savait à quel point ça pouvait être dur et décevant. Et il en parle aussi beaucoup dans ses essais, de tous ces efforts finalement, et assez souvent déçu. Hélas, l'époque était très difficile, qui colore également sa vision sur la condition humaine et sur ce que sont les humains.
Il dit quelque chose de formidable. Il dit « Moi, j'ai réussi à ne pas être un grand manipulateur et un grand politicien, parce qu'au fond, j'ai pas une très bonne mémoire. Pour être un grand politique, il faut se souvenir de tous les coups un peu tordus qu'on a fait. Moi, je m'en souviens pas, donc je suis obligé d'être honnête par mon manque de mémoire. » Vous voyez, c'est une manière aussi, quand on oublie quelque chose, de se dire, au fond, ça nous rend un peu honnête, quoi, d'être.
Votre regard, Frédéric Schifter.
Alors, à propos du décentrage, du décentrement, je ne sais pas comment dire, de la personnalité, je crois que Montaigne avait une toute autre optique. Pour lui, la société nous imposait une comédie, enfin un des jeux de rôle, justement. Et lui, qui était magistrat, maire de Bordeaux, qui était père de famille, qui était effectivement l'agent de certains pouvoirs, c'était aussi l'ami du futur Henri IV, etc. Donc il avait effectivement des rôles sociaux à jouer, et ce qu'il appelle ses vacations farcesques, il appelait ça carrément des choses grotesques. Pour lui, la vie politique et sociale est grotesque, et la véritable vie, pour lui, ou la vie plus authentique, c'est celle où on est le plus proche de soi-même, c'est-à-dire quand on est seul. Et c'est pour ça qu'il préconisait toujours d'avoir, pour se soulager de la fatigue des rôles sociaux, d'avoir une arrière-boutique, comme il disait, d'avoir vraiment une sorte de vie retirée, en retraite, etc. D'où, bien sûr, le havre de paix que constituait sa librairie. Quant à la question de la sagesse de Montaigne, pour lui, la sagesse, ou en tout cas la santé, alors évidemment, il est préoccupé par sa santé, bien évidemment, il est malade tout le temps, c'est bien normal, et je dirais même qu'il est peut-être un peu hypochondriaque, mais qu'importe. Mais pour lui, la sagesse, au fond, elle vient avec la fatigue de vivre. Et il a cette phrase qui est terrible, et qui, à mon avis, devrait décourager les optimistes, il dit « Nous appelons sagesse la difficulté de nos humeurs, le dégoût des choses présentes. Et effectivement, arrive un temps où les choses présentes ne nous mettent plus en appétit comme elles le faisaient quand nous étions jeunes, et s'ajoute à cette souffrance le fait de se souvenir justement des plaisirs que nous avions eus et qui ne peuvent plus revenir, que nous ne pouvons plus éprouver. Donc il y a vraiment chez Montaigne, je suis désolé de le dire, quelque chose, enfin une passion triste qui est là et à l'œuvre dans tous ses essais. Et s'il y a quelque chose de bénéfique à retirer de sa lecture, c'est simplement le plaisir de le lire, parce que c'est un écrivain et c'est un plaisir esthétique. Le plaisir de lire un grand écrivain avec son style, ses métaphores, ses tournures, sa façon d'aller à saut et à gambade, comme il dit. Voilà, c'est le plaisir de lire un écrivain.
Frédéric Schifter, dans la lignée de ce que vous venez de dire, je vous cite dans votre recueil d'aphorismes, Lassitude, à l'optimiste, je préfère le superstitieux qui a au moins la sagesse d'anticiper le pire. Michel Lejoyeux.
Juste sur la vieillesse, il dit quand même deux choses très rassurantes que j'utilise tout le temps en consultation. Ceux qui branlent, ceux qui tremblent ne tombent pas, c'est vrai des murs. Il dit il y a des vieux murs qui tiennent uniquement par la force de leur âge et de leur poids, même s'ils sont tout effrités. C'est nous, ça.
Michel Lejoyeux, j'aimerais qu'on s'arrête sur ces pensées toxiques qui empoisonnent notre esprit à petit feu et qui peuvent nous rendre malades. Ce sont les fausses croyances sur soi, sur les autres, sur le monde. Comment Montaigne peut-il nous aider à dénicher et à contrer ces fausses croyances?
Alors, ces fausses croyances, elles ont été inventées par un psychiatre qui s'appelle Aaron Beck, grand monsieur de la thérapie comportementale,
qui est mort à l'âge de 100 ans, en 2021.
Oui, absolument, il est mort l'an dernier à 100 ans. Et il avait donné quelques idées.
Dans la lignée de Montaigne.
Oui, dans la lignée de Montaigne, où Montaigne inspiré avait lu Aaron Beck. Je ne sais plus dans quel sens, vous me direz. Le premier qu'on fait tous, c'est la surgénéralisation. C'est-à-dire, il m'arrive un petit souci, je considère au fond que ma vie est définitivement ruinée. Et vous voyez, la capacité de Montaigne à prendre thème par thème, avec ses anecdotes, à parler de lui, est un anti-généralisation. L'autre chose, c'est l'abstraction sélective. On le fait après une émission, on dit « Ouais, il y a eu un petit truc où là, j'ai pas été au top. » Je suis sûr que vous le faites. On a une tendance naturelle à se souvenir du tout petit moment où ça a un peu patiné. Vous voyez bien, quand il y a un petit bug ou quelque chose comme ça, on s'en souvient beaucoup plus. Et Montaigne nous dit, cette chose-là n'est qu'un détail. On ne voit les choses positives que les choses négatives que bouffies et enflées de manière artificielle. Et c'est ce qu'on fait en thérapie. C'est ce que je fais avec Marie dans le livre et c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire apprendre aux anxieux que nous sommes tous que certes, on a des moments ratés dans la vie, on en a dans chaque journée, mais au fond, ça n'est pas toute la vie qui est ratée. L'autre chose, c'est l'inférence arbitraire.
Ah, ça veut dire quoi, ça?
L'inférence arbitraire, ça consiste à, on l'a vu à l'époque de la pandémie, on l'a vu tout le temps, à tirer une conclusion fausse. À, au fond, se dire, quand je ne comprends pas quelque chose, ça doit être, il doit y avoir une part de juste. Montaigne dit, je connais des gens qui ne pourraient pas dire qu'ils ont, alors c'est Montaigne, hein, c'est un peu cru, le derrière galeux, sans avoir lu dans leur dictionnaire la définition du derrière et la définition de la gale. Moi, je le trouve pas si triste que ça, quand même, hein, Montaigne, quand il raconte tout ça.
11h moins le quart, tiens, il est déjà l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Parfois, on se sent seul sur Terre. Alors, je ne parle pas de la solitude physique ou affective. Non, le plus souvent, on sait quand même qu'il y a autour de nous, de près ou de loin, des humains qui nous aiment. Je parle de ces moments où on se sent seul dans sa tête. Où on se demande si on n'est pas seul à avoir certaines pensées, à éprouver certains ressentis. Dans ces moments, la rencontre avec un auteur est quelque chose de merveilleux. On tombe sur un livre qui nous parle de nous, cette partie de nous qu'on pensait unique et impartageable. On se pensait seul et on découvre qu'il existe ou qu'il a existé au moins une autre personne humaine éprouvant la vie à peu près comme nous. Beaucoup de lecteurs de Montaigne ont connu cette émotion de fraternité en lisant ses essais. Montaigne parlant de ses défauts physiques, de sa digestion, de ses maladies, de ses lectures, de sa manière de composer avec sa famille, ses amis, de fuir les obligations sociales qui lui pèsent. Montaigne nous parlant de sa gourmandise, mais aussi de sa curiosité, lui qui, lors de son grand voyage en Europe, amena avec lui son cuisinier, non pas pour qu'il lui mitonne des plats du sud-ouest et qu'il lui évite de mal digérer les cuisines locales, mais au contraire, pour qu'il apprenne de nouvelles recettes venues d'ailleurs. Montaigne parle de lui-même avec sincérité et avec le souci de faire de tous les petits éléments d'une vie humaine l'occasion d'une réflexion intelligente et honnête. Si intelligente et si honnête qu'au fil de la lecture, on se dit qu'on a envie de lui ressembler, qu'il fait partie des humains que l'on a envie de suivre. On se dit, cher Michel, où tu iras, nous irons.
Merci Christophe, on va l'avoir dans la tête toute la journée.
Que de bons souvenirs. Écoute un peu.
C'est
les paroles sont de Montaigne. Mais... Ah, ce qui est bon, ce qui est bon en lisant Montaigne, c'est qu'on découvre un humain normal et ordinaire, comme nous, avec ses peurs. Quand l'épidémie de peste ravage Bordeaux, dont il est le maire, Montaigne ne se montre pas héroïque, mais prend la fuite pour éviter de mourir. Avec ses travers, il nous explique qu'il n'a pas lu la plupart des bouquins de sa vaste bibliothèque, pas lu en entier du moins, mais ça le rassure de les posséder, de disposer de tout ce savoir autour de lui à sa portée, et qu'il préfère finalement la compagnie de ses livres à celle de sa famille et de ses enfants. Eux au moins, ils sont toujours disponibles et ne lui demandent rien. Montaigne s'attache à se dépeindre en humain ordinaire, banal, normal, mais nous savons qu'il a été capable de grandes et belles choses, dont celle d'avoir rédigé ses essais, d'avoir mené à bien de difficiles négociations politiques au temps des guerres de religion, mais sans jamais en tirer gloire ni orgueil. Ainsi sommes-nous toutes et tous des humains ordinaires capables, de temps en temps, de nous montrer exceptionnels. Montaigne, bien en avance sur son temps, a aussi tout compris à l'estime de soi. Il ne manque pas d'en souligner la nécessité quand il parle, par exemple, de cette amitié que chacun se doit. Il insiste aussi sur sa légitimité. Il n'est rien de si beau et si légitime que de faire bien l'homme. Et dûment, ni science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie. Et de nos maladies, la plus sauvage, c'est de mépriser notre être. Mais il encourage aussi à la réguler, cette estime de soi, et à pratiquer l'humilité, la véritable humilité, qui n'est pas de se rabaisser ou de se vouloir inférieur, mais plutôt de ne pas chercher à se vouloir ou se croire supérieur. Ainsi, dans son bureau bibliothèque, au sommet de sa tour, toutes les poutres du plafond étaient gravées de sentences grecques et latines, incitant pour beaucoup d'entre elles à une juste estime de soi. Sur la poutre 23, cette citation de saint Paul. Ne soyez pas plus sage qu'il ne faut. Ne vous enivrez pas de sagesse. Ou bien, sur la poutre 38, celle-ci de Pline l'Ancien. Seule certitude. Rien n'est certain et rien n'est plus pitoyable ou prétentieux que l'homme. Et puis, non plus sur les poutres, mais dans ses essais, il nous lègue sans doute la plus belle des maximes destinées à réguler l'estime de soi. Au plus élevé trône du monde, nous ne sommes assis que dessus notre cul. Une formule qui devrait être inscrite au fronton de tous les palais royaux et républicains de cette planète, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas, Christophe André ? Votre chronique, hein, chose vue, à podcaster sur l'appli France Inter et à partager. Dans quelques instants, nous verrons comment vivre une journée inspirée de Montaigne. Ce sera juste après Alain Souchon et Gaëtan Roussel qui interprètent « Sans sommeil ».
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. De l'extérieur, où sont les commerces, les glucides et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches restent vides. marche plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne vaut la vie, elle est splendide. Tant de sauvés grâce à vous qui sortez courageux, solide. Je voudrais faire un geste, un nom rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur.
Alain Souchon et Gaëtan Roussel.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Et ce matin, comment la lecture des essais de Montaigne peut nous aider à cultiver notre bonne santé en compagnie du professeur de psychiatrie Michel Lejoyeux et avec l'écrivain Frédéric Schifter. Alors, à quoi ressemblerait une journée inspirée par Montaigne, Michel Lejoyeux?
Alors, on pourrait imaginer...
On commence par le matin, peut-être.
On commence par le matin. Montaigne se réveillait en musique. Mmh. Quand il était enfant, son père exigeait qu'on le réveille très doucement et avec de la musique classique. Et on pourrait imaginer... Je ne sais plus si c'est Montaigne ou Christophe André qui a écrit sur l'estime de soi. Il faudra que vous me rappeliez lequel des deux.
Je ne sais plus trop.
Hein, on pourrait imaginer le matin de passer en revue des motifs de fierté et d'estime de soi. Bien sûr, marcher, hein, marcher en pleine conscience, ce lien entre le corps et l'esprit, et puis ne pas tout prévoir. Vous savez, Montaigne se moque beaucoup de ceux qui prévoient. Il se moquait de quelqu'un, par exemple, qui avait peur, après sa mort, qu'on voit ses parties génitales et qui avait laissé, c'était un roi, qui avait laissé comme obligation qu'on lui mette un petit slip pour qu'on ne voit pas ses parties génitales.
En tout cas, vous, Frédéric Schifter, vous prévoyez pas grand-chose au cours de vos journées du côté de Biarritz. Hein?
Ah mais non. Dès que je me réveille le matin, je me dis « Ah, c'est très bien, je n'aurai strictement rien à faire. » Voilà.
Voilà. Michel Lejoyeux.
On peut continuer avec les rois mages, ou si peut-être vous avez le matin avec toi. Alors, on peut dire l'après-midi, et ça Montaigne le raconte beaucoup, Je tire un tout petit peu de choses. Il disait, il faut faire l'amitié, quoi. Il faut ce temps d'amitié, ce temps de proximité amicale. Combien de temps on passe avec des gens qu'on n'aime pas?
Beaucoup trop.
Faire une sorte de bilan d'amitié. S'occuper. Vous savez, il y a cette grande idée, je ne dois penser à rien pour me détendre. Montaigne dit, quand je ne donne pas à mon esprit un sujet, il part dans des chimères. Donc, on a le droit de s'occuper.
Alors, Montaigne disait que l'oisiveté ne vaut rien de bon à la santé. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Frédéric Schifter. Vous différez de la position de Montaigne, vous qui célébrez la paresse avec beaucoup de délectation.
Alors, c'est peut-être un point de désaccord que j'aurais avec Montaigne, même si je pense que Montaigne aurait peut-être un peu relativisé son point de vue. Sachant que effectivement, il avait quand même en détestation les occupations sociales, chronophages et sociales et familiales. Il détestait la vie familiale, les enfants, il les supportait pas, etc. Donc, et même il supportait pas sa femme. Il considérait que coucher avec la mère de ses enfants, c'était quasiment incestueux, si vous voulez. Donc, effectivement, non. Mais je pense que il avait quand même un goût pour le plaisir aussi.
Ah bah hein, oui, le plaisir de la table.
Il y a tout un chapitre qui est considéré qui s'appelle sur les vers de Virgile, qui est consacré, eh bien, au plaisir, ce qu'il appelle le déduit aussi, ce qu'on appelait le déduit jadis, c'est-à-dire les plaisirs du sexe, quoi, si vous voulez. Il aime les femmes, il aime leur compagnie, il aime leur douceur, il aime leur sensualité, il aime converser avec elles, il les trouve plus intelligentes souvent que les hommes. Et bien sûr, il n'a que mépris pour celle qui ne se livre que d'une fesse, dit-il, mais effectivement, il cherche la compagnie des femmes, et je pense que Là, c'est une excellente façon de remplir son oisiveté.
On continue le cours de l'après-midi selon Montaigne, Michel Lejoyeux.
Alors, sur l'après-midi aussi, on peut supprimer ces motifs de colère. Hein. Cette idée qu'au fond, à chaque fois qu'on est en colère, on est injuste, qu'il n'y a pas de saine colère. Donc, on peut s'entraîner à se décolérer, s'encrouter l'esprit, on l'a dit. Se désasservir, hein, voir un peu toutes nos petites servitudes, toutes nos servitudes qui sont à la fois, ça peut être des addictions évidemment, mais ça peut être aussi toutes ces obligations de répétition dont on peut sortir.
Et le soir ?
Alors le soir, il y a quelque chose que dit Montaigne, recenser ces moments de sérieux pour s'en moquer. Il dit quelque chose de très beau. Tout le monde peut dire, il dit pas exactement des bêtises, mais dans sa journée, le malheur est de les dire avec sérieux. Donc on a pu dire, et j'assume d'avoir dit et écrit beaucoup de bêtises, j'espère ne pas les avoir dit avec sérieux. Dire et ce doute, qu'est-ce qu'on en a besoin de ce doute à l'époque des avis définitifs ? Dire « il me semble » plutôt que « je suis sûr » quand on fait le bilan de sa journée. Il n'y a pas de bilan dont on soit sûr. C'est par ces mots que les juges et les témoins devaient commencer leur discours à Rome. Et ils s'adaptent bien aux réflexions du soir. Ouais, pas être sûr que la journée a été catastrophique.
Notez ces rêveries. Vous êtes un grand défenseur des rêveries. Alors, dans votre livre, vous parlez de la célébration du moment présent, de l'instant présent, mais vous défendez également la rêverie.
Oui, la rêverie qui est ce temps où à la fois des images mentales sont produites et puis où on peut aussi anticiper des choses positives. Hein, aujourd'hui, il y a toute une psychologie du daydreaming. On a des rêveries éveillées et j'ai rêvé cette émission, vous voyez, tellement souvent avant d'y venir. Et le fait de l'avoir rêvé m'a un petit peu aidé. Hein.
Et puis pour terminer, la soirée, ne pas se mentir.
Ne pas se mentir, oui. Au fond...
Faire un petit examen de conscience dans son lit.
Au fond, avoir ce qui est quand même l'essentiel que dit Montaigne, c'est-à-dire un peu de cohérence dans sa vie. Je n'aime pas les philosophes, uniquement philosophes en écrit et pas en action. Il raconte l'histoire d'un magistrat qui écrit des textes de loi contre, par exemple, l'adultère et qui, sur le même papier, envoie un billet doux à sa maîtresse. Oui, c'est pareil pour la spiritualité. Il faut qu'il y ait une cohérence entre une éventuelle relation à la spiritualité et puis sa vie.
Merci beaucoup, Michel Lejoyeux. Je recommande vraiment la lecture, et Christina Pelléduel se joindra à moi également, ainsi que Christophe, dans Bonne Santé avec Montaigne. C'est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Frédéric Schifter. Je recommande vraiment votre recueil d'aphorismes, Lassitude, publié chez Louise Bottu, éditrice dans Élan. Tiens, je ne résiste pas au plaisir d'en citer un. Chaque heure qui passe devrait être l'heure du bilan. Merci, Christine Lapelle-Edouelle, la revue Grand Mal Vous Fasse. Le nouveau numéro sort demain, le numéro 3.
Le numéro 3, oui, avec plein d'interviews.
Frédéric Lenoir, Papier, la dessinatrice
Albert
Coco.
Mangel,
voilà, Coco, un beau numéro. Très beau numéro. Et merci, Christophe André.